Bonjour Thomas Schlesser.
Bonjour.
Vous êtes à la fois historien de l'art, directeur de la fondation Hartung Bergmann, qui a pour mission de veiller à la conservation et au rayonnement des œuvres des deux artistes cités. Et vous êtes écrivain. C'est votre deuxième roman, Dans les yeux de Mona, qui vous a propulsé sur le devant de la scène littéraire et qui vous a permis de rencontrer votre public avec un rayonnement à l'international. Aujourd'hui, vous enfoncez le clou avec votre nouveau roman, Le chat du jardinier, aux éditions Albin Michel. C'est une initiation purement et simplement à la poésie. D'ailleurs, vous démarrez avec ces mots, au bon et au mauvais élève, mais surtout au mauvais et au bon professeur, mais plutôt au meilleur. Vous avez été élève, aujourd'hui vous êtes prof d'ailleurs depuis 2014 à l'école polytechnique. La passion des mots passe aussi par la transmission.
Mais bien sûr, et d'ailleurs on a des professeurs de français extraordinaires dans notre magnifique pays et ce livre est aussi une façon de leur rendre hommage puisqu'il y a deux personnages, il y a un jardinier et il y a une professeure et c'est elle qui va l'initier à la poésie. Moi-même j'ai eu la chance alors que j'étais pendant longtemps un cancre et un vrai cancre, un mauvais élève au collège, de tomber un peu tardivement sur une professeure qui m'a éveillé aux mots. Et je sais à quel point il y a des lecteurs, des lectrices qui peuvent se reconnaître dans cette expérience. Nos professeurs jouent un rôle essentiel.
On comprend d'ailleurs que c'est un hommage rendu justement à quelqu'un qui vous a tendu la main. Ouais. Du coup, là, on a les mots-clés, ça y est, on comprend un peu plus. Vous gardez quoi de cette enfance en tant qu'élève d'ailleurs, Thomas Schlesser ?
Je vais vous dire une chose, c'est que je n'aimais pas beaucoup l'école parce que j'aimais pas les savoirs techniques. J'étais très mal à l'aise avec tout ça, mais en revanche, pendant mon adolescence, la poésie est venue comme une espèce de réconciliation avec la vie d'une manière assez étonnante, c'est que par la poésie, j'ai compris qu'on pouvait avoir un langage complètement libre, complètement émancipé même de la raison elle-même. C'est-à-dire que la poésie, ça peut être de raconter ses rêves, de raconter ses fantasmes, de raconter sa folie. Et du coup, eh bien, la poésie, c'est vrai, est venue un peu comme une force salvatrice quand j'étais au collège et au lycée.
Comment vous l'avez découvert alors, cette poésie ?
En lisant un poète, qui est un poète d'ailleurs que je recommande absolument à tout le monde parce que c'est un poète à la fois sophistiqué et très simple. C'est Guillaume Apollinaire. Vous savez, c'est le fameux qui écrit le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Ces mots tellement simples qui sont si vrais. La joie venait toujours après la peine. Qui sont des mots d'espoir au milieu d'un poème de chagrin, de dépit amoureux. Guillaume Apollinaire, en effet, par sa mélancolie légère et puis par son courage aussi. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, qui a été engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale. Guillaume Apollinaire, voilà, ce sont aussi des héros pour moi avec lesquels je me suis construit.
On parle du pont Mirabeau, donc ce que vous soulignez à travers ces vers que vous déclamez merveilleusement bien d'ailleurs.
C'est gentil.
C'est que la poésie, c'est un pont, justement, entre nous et nos émotions.
Oui, dans Le chat du jardinier, le personnage de Louis, le jardinier, est un hypersensible. C'est-à-dire qu'il est en permanence...
C'est un colosse, hein. C'est vraiment... Il n'a pas du tout la sensibilité de son physique.
Absolument. Alors, moi, je crois qu'il n'y a pas forcément un lien entre le physique et ce qu'on est à l'intérieur, mais ce qu'il dégage, c'est une force de la nature. C'est quelqu'un qui a une carrure, qui a une corpulence, 30-35 ans, mais en son sein, en son cœur et en son âme, il a l'impression d'être toujours débordé par toutes ses émotions. Et en particulier, l'une d'elles, c'est qu'il a un petit chat qui est malade et ça le rend infiniment malheureux.
Ça le bouleverse.
Ça le bouleverse. Et la poésie est un moyen absolument formidable, je dirais à la fois de canaliser ces émotions parce que ça nous permet de les identifier. Par exemple, quand Baudelaire dit « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Et ça permet aussi de les laisser s'exprimer. Parce que nous sommes dans une époque qui bien souvent verrouille, cadenasse notre intériorité. La poésie, c'est aussi l'autorisation d'un grand flot lyrique et affectif.
Ça permet effectivement d'assumer davantage qui on est, ce qu'on ressent. Ça permet aussi de formuler. Et c'est ça d'ailleurs qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous nous tendez la main. À aucun moment on est jugé, on se sent cancre, on découvre, on redécouvre, on se replonge dedans et nous-mêmes on a envie de s'essayer d'ailleurs à écrire quelques vers.
Il n'y a jamais aucune raison de se sentir cancre. Il y a un très beau poème de Prévert qui s'appelle Le cancre, qui est génial, qui est tout simple, qui est dans le livre d'ailleurs. Ça dit ceci, il fait non avec la tête, il fait oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Et en fait, le cancre n'est jamais que celui qui dissimule derrière quelques faiblesses scolaires, bien souvent une sensation de révolte, un chaos intérieur, et bien souvent une bienveillance. Il n'y a jamais aucune raison de se sentir cancre. Ou plus exactement, si vous vous le sentez, eh bien, demandez-vous ce qui vous traverse, et en effet, la poésie peut y répondre. Parce que la poésie, c'est bien souvent une formulation de sensations qui sont diffuses, qui sont confuses, et qui tout à coup trouvent dans les mots une pleine résonance.
Vous avez d'abord suivi des cours à l'école des hautes études en sciences sociales, avec une soutenance en 2006, un doctorat en histoire et en civilisation. Votre attirance vous a mené vers des liens au champ esthétique et politique, avec un focus sur la caricature, sur la censure, sur tout ce qui a attrait à la littérature et à l'art dans tout son ensemble. Et en 2019, après un livre remarqué, récompensé, L'univers sans l'homme, vous avez publié « Faire rêver de l'art des lumières au cauchemar publicitaire » pour désigner finalement en art ce qui produit ou tend à produire rêve, rêverie, songe et vision. On se rend compte que dans tout ce que vous faites, Thomas Schlesser, vous êtes toujours attiré par cette notion de beauté avec une envie d'y associer les sentiments et les émotions.
Absolument, parce que à mon sens, la beauté n'est jamais quelque chose qui est soit trop froid, quelque chose d'idéal et hors sol, soit qui ne relèverait que des sentiments les plus effusifs. C'est vraiment un mélange des deux, et la beauté, surtout, j'adore cette définition d'un poète qui est Charles Baudelaire, la beauté, le beau, Baudelaire nous le dit, est toujours bizarre. Moi, j'adore la bizarrerie. En fait, quand vous lisez des poèmes, d'ailleurs, c'est la même chose quand vous regardez des belles œuvres d'art. Quand vous lisez des poèmes, la langue devient un peu bizarre. Vous sentez que c'est votre langue, mais en même temps, ça devient un peu comme une langue étrangère. Et ça, c'est une clé absolument formidable pour entrer dans la poésie. Dites-vous que vous êtes à la frontière entre votre langue et une langue étrangère. Vous voyez, par exemple, si vous écoutez du Verlaine, qui vous dit « Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants », c'est votre langue, et en même temps, il y a une musicalité qui la rend légèrement étrangère. Et ça produit du rêve, ça. Ça produit de l'imaginaire et du rêve.
Cet ouvrage, il s'adresse à tout le monde. Qu'on soit justement érudit, ou qu'on soit passionné, qu'on soit justement, entre guillemets, cancre, qu'on ne connaisse ou pas la poésie, peu importe. Ce livre, il est vraiment, c'est une porte ouverte.
Oui.
Pour soit accroître notre sensibilité. Cette histoire, elle raconte un duo. Il y a Thalie d'un côté, effectivement, cette prof retraitée. Il y a Louis qui est à fleur de peau, qui est sensible, lui se dit sensible. La psychologie, vous l'expliquez d'ailleurs, vous rendez ce mot plus pointu, nomme ça l'hypersensibilité. Comment on gère cette hypersensibilité que vous possédez, Thomas Schlesser ?
Alors, c'est pas quelque chose d'évident dans le quotidien. Les hypersensibles vont se reconnaître dans ce que je dis. Parce que l'hypersensibilité, en fait, c'est la sensation permanente d'être en connexion avec le monde, de sorte que quand quelque chose peut sembler anodin, on peut être bouleversé au point de pleurer, mais au point parfois aussi d'éclater de rire. C'est-à-dire que ce qui relève à la fois de la mélancolie ou de l'extrême bonheur affleure en nous sans qu'on sache véritablement comment le gérer. Et du coup, parce que les êtres humains, en règle générale, sont pudiques, ils peuvent sentir une forme de honte à avoir cette hypersensibilité. Je le comprends très bien. Vous voyez, par exemple, moi, je peux écouter une chanson de France Gall et me mettre à pleurer. Ça ne veut pas dire que je considère que France Gall, c'est aussi bien que Jean-Sébastien Bach, bien évidemment. Mais ça me parle comme va me parler un petit éclat de lumière sur une feuille d'olivier. Et donc, du coup, ça provoque de très grandes émotions. À mon avis, il faut les assumer, d'abord, ces émotions. Se dire qu'elles sont une richesse. Il n'y a pas honte d'être traversé par tout ça. Et puis surtout, il faut en faire quelque chose. Elles sont aussi une porte d'entrée fabuleuse vers la créativité. Je ne dis pas forcément sur le fait de devenir peintre ou poète soi-même. Mais Louis, dans le livre, est jardinier. Le fait de jardiner est aussi un acte créatif tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, entre poésie et jardinage, à mon avis, il y a beaucoup de comparaisons possibles et d'analogies.
On comprend d'ailleurs, et on a en tête immédiatement, dès qu'on ouvre cet ouvrage et qu'on découvre l'univers de Louis et ce petit chat qui est malade, encore une fois, ce qui le bouleverse, mais ce qui lui donne envie finalement de croquer davantage la vie à plein dents, de profiter de l'instant, c'est apprendre à cultiver son jardin. Oui. Et effectivement, le fait qu'il soit jardinier nous permet, mais avec l'arrivée de Thalie et de cette initiation à la poésie grâce à elle, effectivement de comprendre que la poésie nous permet aussi de mettre des mots sur des choses qu'il nous faut formuler.
La phrase que vous venez de citer, elle est de Voltaire, c'est une phrase très forte. Il faut cultiver notre jardin. C'est la fin de ce fameux livre du XVIIIe siècle qui s'appelle Candide, ce conte philosophique qui est merveilleux. Il faut cultiver notre jardin, et quand Voltaire dit cela, il y a à la fois le sens vraiment concret, notre jardin terrestre, et évidemment le sens abstrait, c'est-à-dire notre jardin intérieur. La poésie, bien souvent, est perçue, je crois, en partie à raison, mais aussi beaucoup à tort, comme simplement le lieu de la fragilité, de la fébrilité, du chagrin. C'est vrai, bon, naturellement, hein, Verlaine, les sanglots longs dévient au long de l'automne, bercent mon cœur d'une langueur monotone. Mais la poésie, c'est aussi un fortifiant. C'est aussi un élan heureux. Et en fait, ce que va comprendre Louis, c'est que en s'appropriant la poésie, il retrouve en lui-même une force de caractère qui lui permet en effet d'affronter les événements. Rappelez-vous quand même que Nelson Mandela avait dans sa cellule des vers d'un poète anglais qui s'appelle Henley, et dont la fin dit ceci: « Si étroit soit le chemin, qu'on me juge, qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Quand vous avez ça en tête, mais vous pouvez tout affronter, surtout quand vous connaissez le destin de Mandela.
Il garde le destin de son âme, effectivement, et ses pensées, Louis. Il affronte d'ailleurs un voisin qu'il n'apprécie pas du tout, qui va abattre des arbres pour cultiver un champ de chanvre. Il va s'adonner à un trafic de drogue, le chanvre évidemment, qui peut aussi nous emmener ailleurs. Il y a toujours plein de symboliques à travers cet ouvrage de Thomas Schlesinger. Est-ce que c'est pas votre force, justement, de nous donner envie d'être acteur plutôt que spectateur?
Oui, en tout cas, voyez, la poésie, ça signifie au sens étymologique « création ». Et encore une fois, j'insiste, je ne dis pas que quiconque peut devenir du jour au lendemain un grand artiste, c'est pas ça. Mais nos vies elles-mêmes, nos existences sont des actes créatifs dans le moindre geste quotidien. Et ce que j'essaye de faire dans mes romans, c'est de montrer la caisse de résonance qu'il y a entre les poèmes de ces grands aînés, de ces fantômes qui sont parmi nous depuis la poétesse Sappho jusqu'à René Char, et en même temps, ce que nous sommes capables de produire vraiment dans notre vie la plus d'apparence dérisoire, la plus quotidienne. Et voilà, et planter un arbre, à mon sens, c'est aussi fort que d'écrire un joli vers.
Vous avez toujours eu ce côté aussi à aimer l'imprévu, j'ai l'impression, Thomas Schlesinger. Vous avez besoin de concret. Vous vous rabattez aussi sur les écrits, sur la richesse de ce qu'on a pu nous laisser, sur ce patrimoine poétique, avec tous ces auteurs, Victor Hugo, Verlaine, Apollinaire, je ne vais pas tous les citer, René Char. D'ailleurs, vous terminez avec René Char, qui, en plus d'avoir été un grand combattant et de nous avoir offert une œuvre incroyable, a d'abord été un homme de la terre, un être de la campagne,
Exactement. Un
paysan.
Merci de le rappeler.
Et vous terminez là-dessus, d'ailleurs, symbole de ce lien entre la poésie et la terre, et donc avec le concret. Vous avez participé à l'œuvre d'Alberto Sorbelli, L'esthétique de la folie. Moi, j'ai une question. Est-ce que, justement, comme le disait aussi Audiard, dans un autre registre, seuls les fêlés laissent passer la lumière?
Oui, en tout cas, il y a un lien très fort entre la créativité en règle générale et la folie. C'est une évidence. Disons que la folie est un terrain très fertile pour la créativité et que l'art, en règle générale, est ce qui nous permet de nous autoriser. Voilà. Quand on lit les grands poètes, on se dit « je peux m'autoriser à être ce que je suis ». Parce que bien souvent, en plus, ce sont des destins d'hommes, mais aussi des destins de femmes. Hein. Louise Labbé, Gaspara Stampa, Marceline Desbordes-Valmore, Anna de Noailles, ce sont des destins qui, pour le dire comme Malraux, sont des antidestins. C'est-à-dire, on ne se laisse pas faire parce que la vie semble devoir nous imposer.
Louise Ackermann.
Bien évidemment, Ackermann, que j'adore.
On parle de mélancolie.
Et vous voyez, quand vous l'avez dit à l'instant, c'est très juste. René Char, c'est un homme de la terre, c'est quelqu'un qui est d'extraction relativement humble. Ce livre rappelle à quel point poésie et humilité font bon ménage. La poésie, c'est pas une aristocratie littéraire. En tout cas, moi, je ne le crois pas. D'abord parce que beaucoup de grands poètes viennent de milieux très humbles et parce qu'elle doit pouvoir s'adresser à toutes et tous.
On parlait justement de cette folie. Vous avez ce grain de folie, Thomas Schlesinger.
Enfin, c'est difficile d'être juste de soi-même.
On le sait quand on le possède, oui, on le possède.
Par moments, je suis un peu barjot.
Ce qui est important, c'est que ça nous amène à une chose très importante et essentielle, c'est la liberté.
Oui.
Il y a un passage qui est formidable où justement Tali dit à Louis qu'il aurait dû appeler son chaton Liberté. Finalement, c'est un cyprès qui va s'appeler comme ça. C'est ça que vous cherchez d'ailleurs à travers cette écriture, à travers le travail de l'écriture, que chacun et chacune d'entre nous puisse trouver le chemin de la liberté.
Je crois que c'est la valeur cardinale. Je crois que c'est d'autant plus intéressant qu'on est dans une époque où celle-ci est mise à mal, cette valeur de liberté, partout, hein, aussi bien à gauche qu'à droite, qu'au centre, pour plein de raisons qui sont parfois excellentes, mais qui sont problématiques. Et du coup, la poésie, par l'élan de liberté qu'elle propose, s'impose aussi comme force politique. À chaque fois que le langage se restreint, se réduit, il y a une forme d'oppression sur la pensée. La poésie nous rappelle à chaque fois que nous devons faire respirer notre cerveau, oxygéner notre verbe par le biais de l'invention du langage. Donc, ce que j'espère, c'est que quand les gens liront Le chat du jardinier, ils comprendront qu'ils peuvent s'exprimer de la manière la plus libre qui soit, non seulement pour eux-mêmes et pour le ravissement esthétique, mais parce que fondamentalement, c'est une nécessité politique.
Quand beaucoup refermés dans les yeux de Mona, on s'est demandé comment vous alliez pouvoir créer une suite, entre guillemets, et proposer autre chose. Le chat du jardinier, c'est une suite irréelle, un peu rêvée, que vous nous offrez là. Il y a vraiment cette humilité dans l'écriture, Thomas Schlesser, et cette envie que vous avez d'ailleurs, comme un professeur, de transmettre.
Oui, ça vous savez, je crois que c'est toujours de l'ordre de la vocation. Il y a comme ça, on se reconnaît souvent entre professeurs, un désir de transmettre, et de désir de transmettre aux plus jeunes, naturellement. C'est vrai que j'essaye d'avoir une écriture qui soit jamais jargonneuse, très simple. Vous savez, comme je fais des travaux académiques à côté qui sont insupportablement lourds et qui sont parfois extrêmement complaisants dans une espèce d'intellectualisme exsangue, eh bien, la littérature, le roman, la fiction permettent tout à coup d'être, j'espère, beaucoup plus généreux et donc de transmettre. Et c'est tout le rôle du personnage de Tali dans le livre, mais croyez-le bien, les poètes eux-mêmes sont obsédés par le fait que leurs mots infusera dans le cœur et l'âme des gens. Tout le monde, fondamentalement, je crois, a envie de transmettre.
Quel est votre préféré, alors, dans tout ça? Puisque vous dites que un poème est une histoire de mise en bouche.
Oui, c'est-à-dire que le poème est bien souvent une oralité.
Il faut l'intégrer.
Oui, et surtout, ce que je conseille aux gens, quand vous lisez des poèmes, lisez-les à haute voix. Et n'hésitez pas à faire comme Louis dans le livre, qui s'adresse à la nature, aux plantes, au jardin. C'est un excellent moyen de sentir résonner les mots. Écoutez, je vous dirais que très certainement mon poète préféré est Guillaume Apollinaire, mais il y en a tellement. Rimbaud est quand même un poète merveilleux, et puis René Char aussi. Mais oui, Apollinaire, sans doute parce que il y a chez lui vraiment une tendresse qui est extraordinairement touchante. Vous voyez, par exemple, quand il dit « Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine. Il s'écoule et ne tarit pas. Quand donc finira la semaine ?»
Tout est dit. Merci beaucoup, en tout cas, Thomas Schlesser, d'être passé par Le Monde d'Élodie sur France Info. Le chat du jardinier, je le recommande vraiment vivement. C'est sorti aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci.